Radio Prague, les informations. Bonjour, la coalition gouvernementale avalise sa déclaration de politique générale. Corruption, l'ancien Premier ministre Petr Nečas a été mis en examen. Et puis enfin, liberté de la presse, 13e, la République tchèque a gagné 3 places au classement mondial de Reporters sans frontières. Comme annoncé en titre, la coalition gouvernementale doit avaliser ce mercredi soir la version finale de sa déclaration de politique générale. Celle-ci sera présentée à la Chambre des députés mardi prochain, et ce afin d'obtenir la confiance de celle-ci. Il ne devrait s'agir que d'une formalité, le gouvernement disposant d'une confortable majorité à la Chambre basse, avec 111 sièges sur 200. La coalition tripartite, rappelons-le, est composée des sociaux-démocrates, du mouvement ANO, pour Action des citoyens mécontents et des chrétiens démocrates. Ses priorités iront à la lutte contre le chômage, au soutien aux entreprises, à la réorganisation des services de l'État ou encore au maintien des minima sociaux. Politique toujours, l'ancien Premier ministre Petr Nečas a été inculpé mardi suite à l'affaire de corruption ayant conduit à la démission de son gouvernement en juin dernier. La chute du cabinet avait entraîné une crise politique et l'organisation d'élections législatives anticipées en octobre dernier. L'ancien chef de la coalition gouvernementale de droite est accusé d'avoir offert des postes lucratifs dans des entreprises contrôlées par l'État à 3 députés de son parti en échange de leur démission. S'il est reconnu coupable, Petr Nečas, qui nie toutefois toute responsabilité, risque de 1 à 6 ans de prison. Plus de détails sur le sujet dans quelques instants dans la rubrique « Faits et événements ». L'organisation Reporters sans frontières a publié ce mercredi son classement mondial annuel de la liberté de la presse. La République tchèque a gagné 3 places par rapport à 2013 et arrive ainsi cette année en 13e position sur un total de 180 pays pris en compte. En tête du classement, dont l'indice synthétise les atteintes à la liberté de l'information, les 3 pays européens qui occupaient les premières places l'an dernier composent à nouveau le trio de tête. Pour la 4e fois consécutive, la Finlande se distingue comme le pays le plus respectueux de la liberté de la presse. Elle est suivie par les Pays-Bas et la Norvège. La France arrive en 39e position à l'autre bout de l'échelle. Et là aussi, comme ces dernières années, figurent l'Érythrée, la Corée du Nord et le Turkménistan. Le taux d'inflation en République tchèque s'est élevé à 0,2% en janvier. Il s'agit d'une baisse de 1,2 points par rapport au mois de décembre et du taux le plus faible enregistré depuis octobre 2009. Les chiffres ont été communiqués ce mercredi par l'Office national des statistiques. La baisse des prix de l'énergie est notamment à l'origine de cette tendance. En 2013, le taux moyen avait été, rappelons-le, de 1,4%, soit l'inflation la plus faible enregistrée depuis 2009, et une baisse de 1,9 points par rapport à 2012. Sport, bonne ou mauvaise nouvelle pour les amateurs de course à pied, 3 mois avant sa tenue, le marathon de Prague, qui fête cette année son 20e anniversaire, affiche complet. Les organisateurs ont annoncé ce mercredi que tous les dossards étaient déjà vendus et que les inscriptions étaient closes. Par conséquent, pour la première fois de son histoire, 10 000 participants s'élanceront donc de la place de la vieille ville, lieu également de l'arrivée de la course, le 11 mai prochain. L'année dernière, leur nombre s'était élevé à 9 500. On termine avec un mot de météo. C'est un temps inverse de celui de ce mercredi qui règne en République tchèque ce jeudi, jour de la fête des Vienceslava. Tandis que la moitié est profitera de belles et franches éclaircies, la moitié ouest est-elle cette fois sous les nuages qui entraînent quelques averses. Quant aux températures, elles varient entre 4 et 8 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Tout de suite, retrouvez Pierre Maignan qui vous accompagne pour la suite de notre programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous mes chers amis, pour la suite de cette émission de Radio Prague consacrée à l'actualité tchèque. Il faut tout d'abord remercier Guillaume Narguet pour son remarquable bulletin d'information. Au programme de ce mercredi, une fois n'est pas coutume, nous revenons sur une affaire de corruption, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une affaire qui a conduit mardi soir à l'inculpation de l'ancien chef de gouvernement de droite, Petr Nečas. Denisa Tomanova vous proposera ensuite un sujet plus reposant et riche de promesses pour les mélomanes de République tchèque, puisque l'ensemble Prague Philharmonia fête son 20e anniversaire cette année. Enfin, c'est mercredi, et qui dit mercredi sur Radio Prague dit rubrique historique. Yaroslava Gisubelova revient aujourd'hui sur l'histoire de l'Université Charles de Prague, la plus grande de République tchèque. Bonne écoute à tous et à toutes. Une procédure d'inculpation a été engagée mardi contre l'ancien Premier ministre Petr Nečas du Parti civique démocrate ODS suite à l'affaire de corruption ayant conduit à la démission de son cabinet en juin dernier. L'ancien chef de la coalition gouvernementale de droite est accusé d'avoir offert des postes lucratifs dans des entreprises contrôlées par l'État à trois députés de son parti en échange de leur démission. Petr Nečas nie tout acte malveillant et considère que son inculpation politique, selon lui, est motivée par un désir de représailles à son égard. En juin 2013, l'affaire Nadiova éclate au nez de la coalition gouvernementale dirigée par Petr Nečas, qui est contraint à la démission. Ce sera l'affaire de trop après les différents scandales qui avaient déjà précédé celle-ci et menacé son gouvernement. Nadiova, Yana de son prénom, c'est le nom de celle qui est alors directrice du cabinet du Premier ministre en même temps que son amante. Elle deviendra même son épouse quelques semaines plus tard. Yana Nadiova, placée en détention préventive un mois, est accusée d'avoir dirigé des écoutes illégales visant notamment l'épouse de Petr Nečas. Un volet de l'affaire implique cependant ce dernier, puisque la police s'intéresse à la démission dans de circonstances troubles de trois députés de son parti dont il est alors le président, le Parti civique démocrate ODS. En novembre 2012, Petr Truchoj, Marek Schneider et Ivan Fuksa avaient accepté de renoncer à leur mandat pour qu'un paquet de lois fiscales, auquel ils étaient opposés, mais indispensables à l'adoption du budget de l'État, puisse être validé par la chambre basse du Parlement. Quelques mois plus tard, les trois hommes accéder à des postes lucratifs dans des directions de différentes entreprises dont l'État est actionnaire majoritaire. Or, c'est Petr Nečas en personne qui aurait supervisé le deal. Lui-même le reconnaît d'ailleurs, mais n'y voit aucun mal, évoquant une pratique politique normale et courante. Le procureur d'Olomouc, Ivo István, qui chapeaute l'enquête, n'est cependant pas de l'avis du Premier ministre. Le juriste constitutionnaliste Marek Antoš non plus, selon lequel la mise en examen de ce mardi était attendue.
Si on affirme qu'offrir un poste de travail à quelqu'un en échange de sa démission à ses fonctions de député est un acte de corruption, alors Petr Nečas se trouve dans la même position que n'importe quelle autre personne qui se serait ainsi compromise, et dans ce cas, il n'est couvert par aucune immunité.
En effet, ce n'est pas en qualité de député que Petr Nečas a offert ses postes lucratifs, mais bien en tant que Premier ministre. Pourtant, tous les juristes ne s'accordent pas sur ce point. En juillet dernier, la décision de la Cour suprême, qui ne peut faire l'objet d'aucun appel, de suspendre les poursuites à l'encontre de Petr Truchoj, Marek Schneider et Ivan Fuksa, alors placés en détention provisoire, avait été froidement accueillie. Les trois ex-députés avaient pu reprendre leurs fonctions dirigeantes et réclament même 12 millions de couronnes, soit près de 440 000 euros de dommages et intérêts. Par ailleurs, les spécialistes ne sont pas plus d'accord pour déterminer si la transaction proposée par Petr Nečas et acceptée par les députés peut faire l'objet de poursuites pour corruption. On ne le pense évidemment pas du côté du Parti civique démocrate ODS, dont les membres dénoncent à l'unisson de Petr Nečas une chasse à l'homme politiquement motivée dont il serait la victime. Son avocat, Josef Lžičáš, explique.
Petr Nečas a le sentiment qu'il s'agit de représailles, car il a déposé, il y a environ 15 jours de cela, une plainte contre certaines personnes impliquées dans son enquête. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Nous souhaitons que la Cour suprême examine tout cela.
La plainte de Petr Nečas est dirigée notamment contre Robert Šlachta, le directeur de l'unité de la police de lutte contre le crime organisé, qu'il accuse d'abus de pouvoir. Pour l'avocat de l'ex-premier ministre, l'enquête sera longue car il va falloir réexaminer les dossiers des trois anciens députés devenus administrateurs de grandes entreprises. L'ensemble PFK, le Prague Philharmonia, fête son 20e anniversaire cette année. Dans le cadre d'une riche programmation musicale qui a l'ambition de présenter plusieurs concerts au grand public chaque mois, c'est le groupe tchèque Clarinet Factory qui se produira ces mercredis et jeudis au musée tchèque de la musique, le České muzeum hudby. Un reportage signé Denisa Tomanova.
La PFK Prague Philharmonia a d'abord été fondée dans l'idée de rassembler des jeunes diplômés des écoles et des conservatoires de musique jouant avec passion et engagement dans un ensemble de musique de chambre. Au micro de Radio Prague, Barbora Duškova, la responsable des relations publiques de Prague Philharmonia, est revenue sur l'histoire d'un des ensembles musicaux les plus importants de République tchèque.
La PFK Prague Philharmonia, qui s'appelait auparavant la Philharmonie de Chambre de Prague, a été créée en 1994 grâce à l'initiative du chef d'orchestre mondialement connu, Jiří Bělohlávek. Actuellement le chef d'orchestre de la Philharmonie est Jakub Hruša, qui va également diriger le prochain concert pour orchestre le 8 mars au palais du Rudolfinum.
Dirigovat náš nadcházející orchestrální koncert 9. března v Rudolfínu.
Si pour sa 20e saison, la PFK Prague Philharmonia présente cette année plusieurs cycles musicaux, une de ses principales activités reste toujours destinée aux enfants. Citons entre autres l'organisation de concerts parents-enfants, de concerts pour les écoles ainsi que de concerts en langue anglaise se déroulant au sein du musée national et la mise en place du club Petite Note où les enfants apprennent à développer leurs aptitudes musicales et artistiques. Parallèlement, la Prague Philharmonia présente également un cycle de musique de chambre au musée tchèque de la musique, České muzeum hudby, ainsi qu'un cycle de musique contemporaine intitulé « La beauté d'aujourd'hui » à l'espace expérimental NOD dans la rue Dlouha à Prague. Si la Philharmonie était connue sous le nom de Pražská komorní filharmonie, la Philharmonie de chambre de Prague, son nom a été modifié l'année dernière et Barbora Duškova nous en explique les raisons.
La Prague Philharmonia a changé de nom au printemps de l'année 2013. Elle y a été amenée par une certaine complication entre l'utilisation du nom tchèque, Pražská komorní filharmonie, et sa version anglaise de Prague Philharmonia utilisée pour les relations à l'étranger. Malheureusement, une certaine contradiction est apparue dans les traductions, c'est pourquoi nous avons décidé d'unifier son nom. Le nom est ainsi composé de l'abréviation PKF, qui s'est popularisée depuis ces 20 dernières années auprès du public tchèque, et du nom Prague Philharmonia, un nom qui semble plus proche des relations extérieures.
A druhý název Prague Philharmonia, který zase jakoby bližší tomu zahraničnímu styku.
La Prague Philharmonia commémora les 20 années de sa création à l'automne avec une série de concerts et avec la participation de tous ses chefs d'orchestre, Jiří Bělohlávek, le Suisse Kaspar Zender et Jakub Hruša. Mais la Prague Philharmonia n'est pas la seule à fêter son jubilé cette année. Le groupe Clarinet Factory, à l'affiche de la programmation, fête lui aussi ses 20 années d'existence. Composé de 4 clarinettistes, dont 2 d'entre eux jouent à la Prague Philharmonia, le groupe Clarinet Factory se produira au musée tchèque de la musique, situé entre l'île de Kampa et le parc de Petřín à Prague, à 2 reprises, à savoir ce mercredi 12 et ce jeudi 13 février. Et à cette occasion, le groupe sera accompagné du percussionniste Alan Vetouche et présentera un spectacle audiovisuel créé en coopération avec le plasticien Petr Nickel. Un des membres de la Clarinet Factory, Wojciech Nigl, a évoqué au micro de Radio Prague le parcours musical du groupe.
Nejdřív jsme hráli různé úpravy a aranže
Classique hudby.
Nous avons tout d'abord joué des arrangements de musique classique et avec le temps, nous nous sommes un peu détachés des notes et ce surtout grâce à la coopération avec la chanteuse de jazz Yana Kobkova qui a révolutionné le système que l'on utilisait jusqu'alors. Elle nous a dit de jeter les notes et d'improviser et même si on était très réticents au début, cela a mûri en nous et nous avons commencé à écrire nos propres morceaux. Et malgré le fait que nous jouons tous dans des orchestres, nous écrivons aussi nos propres chansons. C'est un travail très créatif grâce auquel nous décompressons.
Si píšeme v kvartetu svoje vlastní skladby a tak se odreagováváme.
Si la Prague Philharmonia souhaite également donner la parole à d'autres groupes innovateurs dans le cadre de sa programmation, elle est régulièrement invitée à se produire lors de festivals internationaux et se présente constamment aux côtés d'artistes de renommée mondiale tels que Vladimir Ashkenazy, Anna Netrebko, Placido Domingo, Magdalena Kozená ou Nathalie Dessay.
On passe à la rubrique historique. 132 ans se sont écoulés, le 28 février prochain, depuis la division de l'université Charles de Prague, appelée alors Carolo Ferdinandea, en deux entités, tchèque et allemande, entièrement indépendantes l'une de l'autre. Cette division est une victoire des efforts du mouvement de réveil national visant à émanciper la langue tchèque au plus haut niveau d'instruction. Elle marque en même temps un retour à la situation d'avant 1654, date à laquelle l'empereur Ferdinand III avait réuni l'académie jésuite à l'université pragoise qui perdait ainsi les derniers privilèges garantis par la bulle d'or fondatrice publiée en 1348 par Charles IV. Retour sur ces événements dans ce chapitre de l'histoire proposé par Jaroslava Gisubelova.
Chapitre de l'histoire.
En effet, c'est à la mémoire de l'empereur germanique et roi de Bohême, Ferdinand III, que l'université pragoise porte son nom de 1654 à 1920. En 1654, Ferdinand décide d'installer l'académie jésuite ouverte au Clémentinum dans le cadre de la contre-réforme et de la joindre ainsi à l'université pragoise. Le caractère utraquiste de ces dernières est intenable pour le pouvoir habsbourgeois. L'université Carolo Ferdinandea, ainsi créée, comporte quatre facultés. Les facultés de droit et de médecine, considérées comme séculières, auront leur siège au Carolinum, comme on appelle les locaux historiques de la plus ancienne université d'Europe centrale, tandis que le Clémentinum, collège des jésuites, abritera la faculté de théologie et de lettres. Milada Sekirkova de l'Institut d'histoire de l'Université Charles parle des langues enseignées dans cette université.
Depuis le Moyen-Âge, le latin est la première langue universitaire. Après 1780, il est remplacé par l'allemand, introduit à la suite des réformes de l'empereur Joseph II. Ces réformes marquent une germanisation ainsi qu'une centralisation consistant entre autres dans le contrôle de l'enseignement universitaire. De plus en plus marginalisée, la langue tchèque n'est autorisée que dans deux facultés, dans celle de théologie, où la théologie pastorale est enseignée en langue tchèque pour que les sermons soient compréhensibles pour la population à la campagne, puis dans la faculté de médecine, dans le cadre des cours destinés aux sages-femmes. Dans toutes les autres facultés, l'allemand reste la langue officielle jusqu'en 1848, lorsque l'égalité en droit des langues tchèques et allemandes est l'un des acquis de cette année révolutionnaire. Bouřlivého roku 1948 bylo
zrovnoprávnění češtiny a němčiny ve výuce. Or, l'égalité en droit des deux langues reste purement théorique. Peu de pédagogues osent prononcer en tchèque leurs conférences, peu d'étudiants osent aller les écouter. L'absence de terminologie dans certaines branches, dont le droit, joue aussi un rôle, mais ce sont avant tout des pressions politiques qui influent sur le climat dans les facultés, comme le souligne Milada Sekirkova, pour laquelle un changement ne tardera pourtant pas de se produire.
Avec l'introduction du système constitutionnel dans les années 1860, le climat devient plus favorable à l'émancipation des langues nationales qui commence à se développer non seulement en Bohême, mais aussi dans d'autres parties de la monarchie habsbourgeoise. À Cracovie et à Lvov, les conférences sont prononcées en langue polonaise et le hongrois retentit dans certaines écoles supérieures hongroises. Pour ce qui est de la Bohême, les conférences et les cours sont organisés parallèlement en allemand et en tchèque. L'école supérieure polytechnique de Prague a même devancé l'université pragoise de plus de 10 ans en organisant des études parallèles en allemand et en tchèque. 1864 paralelně všechny
vyučovány povinně česky a německy. À l'époque du réveil national, les pressions sur la nomination de professeurs enseignant dans la langue tchèque s'intensifient. Un professorat tchèque est progressivement mis en place à l'université pragoise. En 1863, sur les 187 cours donnés, 22 sont en tchèque, le reste en allemand. L'égalité en droit est obtenue le 28 février 1882. Que s'est-il passé exactement ce jour-là?
Le 28 février 1882 a été promulguée la loi selon laquelle l'université Carolo Ferdinandea serait divisée en deux entités. L'une reste allemande, l'autre commence l'enseignement tchèque. Les deux égales en droit et totalement indépendantes l'une de l'autre. La répartition des chaires est laissée à la libre décision des professeurs qui ont aussi le choix entre telle ou telle université. Au fil du temps, le nombre de pédagogues et étudiants préférant l'enseignement tchèque augmente alors que du côté allemand, il décline. En 1909, les étudiants tchèques sont au nombre de 4300 contre 1800 étudiants de l'université allemande. Cette dernière perd progressivement son prestige, devenant un établissement local, provincial, alors que l'université tchèque retrouve son rayonnement pour être à nouveau un véritable centre scientifique et culturel de la monarchie, puis de la Tchécoslovaquie.
Pendant un certain temps, les deux universités continuent de s'appeler Carolo Ferdinandea, et cela jusqu'à la création de la Tchécoslovaquie en 1918. L'université tchèque adopte alors spontanément le nom de son fondateur, Charles, alors que la partie allemande s'appellera dorénavant l'université allemande de Prague. Les deux continueront de travailler en parallèle jusqu'en 1939. Le 17 novembre 1939, l'université Charles est fermée, ainsi que les autres institutions de l'enseignement supérieur tchèque dans le pays, à la suite de manifestations contre l'occupation nazie. Certains étudiants ainsi que des professeurs sont envoyés en camp de concentration, les leaders étudiants étant exécutés. Par contre, l'université allemande de Prague est promue université du Troisième Reich et continuera ses activités jusqu'en 1945. Il n'empêche que plusieurs personnalités reconnues sont liées à l'ère d'avant-guerre de l'université allemande de Prague, ainsi que le rappelle Milada Sekirková.
Il convient de citer notamment Ernst Mach, physicien et philosophe autrichien, qui a obtenu en 1867 la chaire de physique expérimentale de l'université allemande de Prague, autre nom qui témoigne du fait que cette université devienne en quelque sorte un lieu de transit après sa division. Albert Einstein, physicien et prix Nobel, professeur non titulaire de l'université de Zurich, Einstein passe 16 mois à Prague. Entre le printemps 1911 et l'été 1912, il travaille comme professeur de physique à l'université allemande.
Du côté tchèque de l'université divisée, l'historien Václav Vladivoj Tomek est son premier recteur et Tomáš Garrigue Masaryk est son premier professeur de philosophie, Milada Sekirková raconte.
Tomáš Garrigue Masaryk est appelé aussitôt après la division de l'université Carolo Ferdinandea à enseigner à la faculté des lettres. Habilité à Vienne, il arrive à Prague en tant que maître de conférence pour être nommé peu après professeur ordinaire de philosophie. On peut dire que la division de l'université en deux entités en 1882 a contribué à l'invitation de Masaryk à Prague. Takže je možné říct, že rozdělení univerzity vlastně vedlo k přizvání Tomáše Garrigua Masaryka do Prahy.
Parmi les autres personnalités renommées ayant fréquenté ou enseigné à l'université Charles, on ne peut pas omettre Jan Hus, réformateur de l'Église, et son premier recteur, Jan Jesenius, médecin qui a pratiqué en Mississon la première autopsie en Europe centrale, Jan Jansky, médecin et découvreur des groupes sanguins, Nikola Tesla, ingénieur et inventeur, ayant principalement œuvré dans le domaine de l'électricité, Miroslav Tirsch, fondateur du mouvement Sokol et indissociable du réveil national de la fin du 19e siècle, Jaroslav Hejrovský, chimiste et premier prix Nobel tchèque, ou encore Edvard Beneš, en politique et second président de la Tchécoslovaquie.
Et voilà, c'est terminé. C'est avec cette rubrique historique consacrée à l'Université Charles par Yaroslava Gisubelova que s'achève notre émission. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Ahoy!